lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories.
Nous voici à nouveau après l'été, en ce premier jour d'automne, pour une nouvelle émission des Livres pour dire. Émission de l'ASBL Scripta Linea, en français collectif d'écrit. Pour les auditeurs et auditrices qui découvrent notre émission et notre association, précisons que Scripta Linea se veut un réseau, un soutien et un porte-voix pour toutes les initiatives collectives d'écriture à but socio-artistique, en Belgique et dans tout le monde. Ces initiatives portées par des collectifs d'écrit peuvent se décliner dans différentes langues. Les textes produits par des collectifs sont écrits en français, en portugais, en espagnol, en néerlandais, en roumain et demain peut-être en arabe, en italien, en farsi et même en anglais. Chaque collectif d'écrit rassemble un groupe d'écrivains désireux de réfléchir ensemble sur le monde qui les entoure. Ce groupe choisit un thème de société que chacun et chacune éclaire d'un texte littéraire pour aboutir à une publication collective, outil de sensibilisation et d'interpellation citoyenne et même politique, au sens large du terme, sur la question traitée par le collectif d'écrit. Une fois l'objectif atteint, le collectif d'écrit peut accueillir de nouveau une nouvelle participante et démarrer un nouveau projet d'écriture. L'émission de ce jour est consacrée au collectif des Allumés de la Plume, également appelé le CAP, et plus particulièrement au thème de société qu'il a choisi pour son sixième parcours d'écriture, le réel et le virtuel. Quelle est notre relation au réel? De quelle réalité parle-t-on? Quelle est notre appartenance au monde? On vous en parle tout de suite avec une délégation du CAP. Au micro, Zora Temsamani, à la technique, Sylvie Van Mol. Autour de la table, nous accueillons Caïtana Carion, Isabelle De Vrindt, Tamara Frunza et Jennifer Rodriguez. Bonsoir.
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 J'ai commencé par présenter très brièvement en quoi consiste un collectif d'écrit. Alors, sans mauvais jeu de mots, pour garder le cap, pouvez-vous nous dire combien de membres vous représentez et où vous en êtes dans ce sixième parcours d'écriture?
Alors, nous sommes 7 membres. Au départ, on était 10, mais plusieurs personnes nous ont quittés en cours de route pour diverses raisons, soit parce que leur propre projet d'écriture n'était pas en adéquation avec le projet du collectif d'écrit, ou pour des questions d'horaire, d'engagement, de possibilité d'engagement. Bref, voilà. Le groupe s'est stabilisé depuis quelques mois maintenant et donc nous sommes en train de faire notre parcours ensemble avec nos textes pratiquement terminés pour la plupart d'entre nous. Et donc, comme je disais, notre collectif donc a bien démarré en février et actuellement nous sommes au stade des relectures de textes et la présentation publique, elle est programmée pour mars 2018.
Donc, vous êtes à mi-parcours.
Oui, volonté de prendre du temps qui nous est nécessaire pour l'écriture et les relectures.
Mais avant ça, vous avez choisi un thème. Comment ça s'est passé?
Ben alors, oui, moi j'avais demandé en fait aux membres du collectif d'écrit. Il faut savoir que quand on commence un nouveau parcours, ben il y a des anciens membres et puis de nouveaux membres aussi. Et donc, j'avais demandé à tous d'apporter des citations d'auteurs qui nous interpellaient. Et donc, enfin, je veux dire, pas les auteurs qui nous interpellaient, enfin, ça c'est éventuellement, oui, mais en tout cas, les citations. Et donc, on a vraiment partagé, on a commencé par partager tous ces textes, plus ou moins courts, hein. Parfois c'était une phrase, parfois c'était un texte un peu plus long. Et puis alors, à partir de là, ben, on a tiré de ces citations des thèmes, et puis on en a encore cherché d'autres, et on a rassemblé les thèmes, enfin les idées qui allaient ensemble. Et alors, si je me souviens bien, on avait fait une première sélection de thèmes. Voilà. Et dans chaque parcours d'écriture, on se pose un peu la question de comment choisir, en fait, quel est le processus de décision qu'on va suivre. Et donc, c'est vrai que jusqu'à présent, on avait fait pas mal de votes, des choses comme ça. Et puis là, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne tirerait pas au sort? les thèmes qui restent après la première sélection. Je crois qu'il en restait 4. Et c'est ce qu'on a fait. On a donc tiré au sort.
Et qui est Christophe André ?
Alors, ben justement, Christophe André, c'est l'auteur qui a en fait, enfin dont on a tiré une citation et qui avait été amené en fait dans la première phase de recherche et en fait c'est un auteur qui a écrit avec deux autres penseur, en fait, un texte qui s'appelle « Trois amis en quête de sagesse ». Donc, en fait, lui, précisément, il est psychiatre. Et puis, alors, il a écrit avec Mathieu Ricard et Alexandre Joyen ce texte « Trois amis en quête de sagesse ». Et c'est de là, en fait, qu'a été tirée la petite citation. En fait, c'est vrai que c'est moi qui l'ai apportée. Donc... Et donc, voilà, à partir de là, on a tiré ce texte, enfin cette idée du virtuel et du réel et de la question de la présence de chacun dans le réel et son appartenance au monde et à quel monde aussi, en fait. Donc, voilà, je peux le lire si tu veux, Sora.
Oui.
D'accord, donc je vais lire cet extrait. Comme ça, vous vous rendez compte peut-être oui. du lien,
oui,
en fait.
Bien sûr.
Entre, enfin voilà, on peut comme ça lancer la thématique parce que c'est comme ça. Enfin, puisqu'on est à mi-parcours, on n'a pas de texte à nous à présenter. On va présenter plutôt, enfin, des idées à nous certainement, mais aussi peut-être des idées d'autres pour un peu développer cette réflexion. Alors voilà ce qu'il avait écrit, ce qu'il disait dans ce texte. Je marche presque tous les jours environ une heure. J'aime les cathédrales de verdure. Dans ces espaces, je peux prendre ma dose de calme, de lenteur, de continuité. Ce sont des moments où j'atteins facilement un état contemplatif, une présence intense au réel. J'expérimente un sentiment d'appartenance au monde, aux saisons qui se succèdent. Des études ont montré que 2 heures mensuelles de marche en forêt améliorent nos réponses immunitaires pendant un mois. Mais attention, je parle d'une vraie balade, sans recherche de performance, sans portable à la main ou écouteur dans les oreilles. Une marche où l'on ouvre son esprit et son cœur à tout ce qui est là. Voilà, ça c'était l'extrait. Puis alors, c'est à partir de là qu'on se disait, bah tiens, oui, il y a toute cette question des performances et puis aussi ces nouvelles technologies qui fait qu'on est présent aux autres tout le temps et... Et voilà, on est parti de là. Bon, c'était peut-être le thème qui nous bottait le moins des 4, mais voilà, c'était intéressant.
J'ai envie de dire comme l'année passée aussi,
ah,
le
voilà,
thème de l'attente.
Oui,
ouais, c'est pour moi, ouais, en tout cas, ouais, ce qui me concerne. Ouais. Mais oui, enfin, j'ai rebondi un petit peu là comme ça, mais c'est toujours surprenant en fait le choix d'un thème parce qu'on part sur quelque chose et finalement c'est celui qui est toujours laissé un peu à l'écart, qui est remis à la lumière par la suite et voilà, auquel on s'attelle.
Voilà, voilà. Et donc, oui, on avait vraiment envie de partager un petit peu avec vous nos réflexions.
Hasard.
Là, c'était un jeu de hasard où on se disait, ben, si c'est pas si important que ça, pourquoi perdre du temps à faire des choix, des votes, etc. Puisque les 4 thématiques nous plaisaient. Mais après, quand il s'agit d'écrire des textes artistiques, pas comme celui-ci, c'est peut-être plus difficile parce que voilà, ça se concrétise justement, pas au réel. Donc voilà. Et alors, en préparant cette émission, j'ai trouvé en fait une réflexion de David Le Breton sur cette question aussi d'être au monde. Et en fait, il rejoint très fort Christophe André, mais il parle de blancheur. Il dit qu'en fait, il y a une telle demande de performance, une telle demande de présence aussi à l'autre, que on est atteint de, entre guillemets, blancheur. Et tout ce qui est blancheur, ça fait référence, en fait, par exemple, au burn-out, etc. Et donc, je le cite là. Donc, il parle de cette envie de disparaître lorsqu'on arrive à saturation. La tentation d'échapper à la difficulté d'être soi dans un monde de contrôle. Donc, voilà, cette idée de monde de contrôle, aussi par les nouvelles technologies. Et cette difficulté d'être, voilà, d'être soi dans ce monde-là. Et du coup, on va échapper à ce monde de contrôle de vitesse, de performance et d'apparence. Et puis, on va aller, par exemple, oui, s'échapper de soi, il dit carrément, disparaître de soi à travers le burn-out, l'alcoolisme. Il parle même de maladie d'Alzheimer, mais aussi il parle de marche, de yoga, de méditation, de jardinage. Et là, il rejoint quand même Christophe André. Voilà, et donc il dit que c'est des moyens, la marche, le jardinage, qui sont des manières paisibles de disparaître. La personne n'aura pas l'impression de s'effacer d'elle-même, mais une majorité de nos contemporains est dans ce fardeau d'être soi et qui amène à une volonté de lâcher prise. Et là, moi, je me disais, en fait, personnellement, que j'ai l'impression que, au contraire, les nouvelles technologies, parfois, nous éloignent de nous. C'est un peu ce que je raconte dans mon texte. Nous éloignent de nous et que ces moments de yoga, de méditation ou de marche ou de, justement, de libération de ces nouvelles technologies sont des occasions de se retrouver soi et pas de disparaître. Enfin, voilà. Mais donc, voilà, ce David Le Breton, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est un sociologue. Donc, voilà, il observe quand même les choses.
Moi, je voudrais aussi réagir par rapport à ce qu'Isabelle a dit, puisqu'elle commentait un petit peu sur son texte où elle raconte donc cette problématique du retour à soi. Eh bien, moi, j'ai un peu le phénomène inverse, j'ai l'impression, parce que j'ai, dans mon texte, en fait, c'est plutôt disons, cette virtualité, cette confusion entre jeu ou image et réalité qui fait que des personnages qui peuvent être apparemment en apparence différente, en réalité, sont le même. Et donc, voilà, je pense que la question du virtuel tel qu'on l'entend aujourd'hui avec toutes ces dimensions technologiques et tout ce que ça nous... vers où ça nous porte, en fait, dans notre pratique quotidienne, qui est aussi bien l'utilisation des appareils, mais aussi ce que ça signifie dans nos rapports avec les autres. Et en ce qui concerne les plus jeunes, et même les plus âgés, je dois dire, c'est le rapport au jeu, d'une part, et puis au niveau même des images qui sont envoyées par la télévision, par exemple, ou par Internet, où se trouve la frontière. Donc, voilà. Je pense que c'est un thème qui peut être pris sous plusieurs angles différents, et qui témoignent tous d'une préoccupation de nous en tant qu'êtres humains dans le monde.
Certainement, vu différemment. Et peut-être vu différemment d'une personne à l'autre, tu veux dire, si je comprends bien.
Oui.
D'accord.
Oui, c'est ça. Mais malgré tout, on peut se perdre aussi, soit à justement, enfin, comme tu dis, il n'y a pas forcément de frontières, mais à la fois... et là, ben, je propose d'introduire la chanson, parce qu'on a dû choisir aussi des chansons pour un petit peu aérer, mais quand même aussi pour alimenter la réflexion. Et c'est une chanson d'Yves Jamais qui s'appelle Réalité et qui fait référence à la télé-réalité, parce que ça, c'est aussi une forme... Enfin, tu parlais de jeu ou de jeu, Cayetana
Des jeux.
Et là, voilà, on peut dire que c'est une forme de jeu, hein, la télé-réalité. Et puis, ça raconte l'histoire d'une personne qui se prend tellement à ce jeu-là que quand il se retrouve dans la réalité hors jeu, ben, il se met hors jeu, il se suicide. Donc voilà, on va écouter.
On va faire une première pause musicale.
Si tu n'as rien à dire, t'as qu'à chanter. Pas besoin de réfléchir pour faire mêler. Y'a pas besoin d'écrire pour faire rêver. Tu pourras t'en sortir et les enchanter. Hey, hey, hey. Pour ça faudra t'inscrire, te faire mater dans le meilleur du pire de la télé. Elle saura bien saisir le moment clé pour venir te vomir sa réalité. Superstar, que pour toi on aura tous les écarts, qu'on t'ouvrira les bras en grand écart, pour venir te fêter comme un nouveau-né. Si tu veux chanter, chanter, juste pour l'équilibre sans faire le beau. Si tu veux chanter, chanter,
des narcisses pour finir qu'on va berner. On saura t'éblouir, t'émerveiller. De tartuffes flatteurs un peu grossiers, en vieux bonimenteurs expérimentés. Et ta vie sera belle et pailletée par des journaux poubelles bien relayés. Des sophistes sauront alimenter des envies de frissons pour mieux se gaver. Alors tu te prendras pour une star, pourtant tu ne seras qu'un avatar qui fera les choux gras sans le vouloir de ce que t'auras laissé te manipuler. Sans faire le beau, si tu veux chanter, chanter, fais-le en étant libre comme un oiseau. Si tu veux chanter, chanter, fais-le en étant libre comme un oiseau. Ils auront fini de s'empiffrer, qu'ils auront bien détruit ta dignité. Ils seront sans vergogne pour te jeter, comme un os qu'on ronde sans plus se soucier. Alors tu seras seul, pas encore froid, on reverra ta gueule une dernière fois. Tu feras le bonheur des tabloïdes, qui sauront être à l'heure lors de ton suicide. Si tu veux chanter, chanter, juste pour l'équilibre sans faire le beau. Si tu veux chanter, chanter, fais-le en étant libre comme un oiseau. Si tu veux chanter, chanter, juste pour l'équilibre sans faire le beau. Si tu veux chanter, chanter, fais-le en étant libre comme un oiseau. Étant libre comme l'oiseau.
Voilà, vous avez écouté Réalité de Yves Jamais. Le virtuel, c'est donc la grande illusion.
Alors, illusion, je ne sais pas si c'est le mot... C'est-à-dire, tout dépend comment on comprend en fait cette notion, d'après moi. Parce qu'effectivement, ça peut nous envoyer dans des mondes tout à fait... illusoire, donc on peut savoir un peu comme le monde de Pinocchio. En fait, moi j'ai toujours, je sais pas pourquoi, je fais toujours cette association entre les images de ce Pinocchio qui va dans ce monde extraordinaire où il y a plein de choses très spectaculaires en fait, mais qui font pas partie de la réalité. Et donc ça, c'est son illusion à lui. Mais pour moi, cette question du virtuel rejoint aussi quelque chose que j'avais un petit peu creusé, notamment en travaillant le thème dans le cadre du collectif, et ce qui m'a amené en fait à la lecture de quelques textes, et notamment un texte de Baudrillard, ou en tout cas un commentaire sur des écrits de Baudrillard, qui est un philosophe français qui est déjà décédé, et qui s'est pas mal penché sur la question des médias et sur le thème du simulacre. Alors, on est d'accord que virtualité et simulacre, c'est pas exactement la même chose. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'il part en fait des images qui sont envoyées donc par les médias, par la télévision notamment. Et il parle du fait que c'est très scénarisé. Donc, dans quelle mesure on parle vraiment de la réalité? Et il donne l'exemple, par exemple, de la guerre du Golfe dans les années en 1991. Où on avait ces images très abstraites avec des couleurs vertes et on ne savait pas très bien ce qui se passait. On savait qu'il y avait une guerre, mais on n'a jamais vu les cadavres, on n'a jamais même entendu les tirs. On a juste vu de loin quelque chose qui ressemblait à des jeux vidéo. Et donc c'est un petit peu par cette petite porte là que j'ai voulu aussi traiter un petit peu la question du virtuel par rapport au réel, d'autant plus qu'aujourd'hui le rapport non seulement aux jeux vidéo qui a maintenant avec la réalité en trois dimensions, enfin bref, il y a toute une série de technologies qui nous plongent vraiment dedans et on a l'impression d'être dans un espace qui n'est pas le vrai espace en fait, et on le vit parce qu'on le sent, parce qu'il nous attaque, il nous agresse, et donc ça nous plonge dans une toute autre dimension qui, je pense, en soi est très intéressante parce que ça nous ouvre à d'autres mondes, mais il faut voir aussi comment nous, en tant qu'êtres humains, on se sent par rapport à ça. Mais pour moi, la question, c'est notamment par rapport à la question des images. Donc, moi, quand je regarde Internet ou la télévision, je me pose maintenant tout le temps la question, est-ce que ce que je suis en train de voir est vrai ? C'est-à-dire que on peut manipuler, que ce soit par du montage, que ce soit par des images de synthèse, on voit vraiment pas du tout si c'est vrai ou pas, ou alors simplement parce qu'on met une image d'il y a 3 ans, on la met dans une situation actuelle. Et donc, ça fausse complètement la donne. Et pour moi, ça fait partie de toute cette manipulation de la réalité, mais qui passe par cette notion de virtuel qui est très polysémique, hein, qui joue sur plusieurs plans, mais qui, je pense, rejoint la question du non, de ce qui n'est pas palpable, en fait, qui n'est pas matériel. Donc, on peut pas, je veux dire, on n'est pas devant des images qu'on touche, on est dans des images qu'on retouche, mais par des appareils, en fait, et qui pose la question de où est-ce que moi, en tant qu'être humain, je me situe par rapport à cette information, par rapport à cette image, et donc par rapport au monde. Quelque part, je peux me demander, tiens, au fond, est-ce que ce qui se passe à l'extérieur de moi est bien vrai ou pas? C'est un peu schizophrène, hein, on est d'accord, mais voilà. Donc moi, c'est toutes ces questions-là que ça me pose.
Oui, moi, ça me faisait penser aussi au terrorisme en réalité. Tu vois quoi, c'est finalement on peut être agressé comme ça un peu n'importe quand. Tu vois quoi, c'est plus tellement palpable. Ça peut être dans le métro, ça peut être dans la rue. Voilà. En fait, enfin, quand tu parlais de ça,
C'est vrai que ça fait référence à une des acceptions du mot virtuel. Hein.
Oui,
virtuel,
c'est
ce qui peut être
ce qui
réalisé.
Peut être. Et c'est quelque part aussi une sorte de terreur psychologique, quoi, que je pense que nous avons créé aussi, quoi, à force de pas exprimer peut-être nos émotions, enfin, ou de pas les accepter déjà pour nous-mêmes, d'être toujours un peu coincé comme ça dans des choses et de ne pas les exprimer parce qu'il faut pas, enfin, pour l'éducation, de plein de trucs, quoi. Et voilà. Et du coup, moi, en réalité, ça ne m'étonne pas tellement, quoi, ce qui arrive comme ça avec... ce virtuel, ce réel existe depuis super longtemps, en fait. Enfin, voilà, je...
Mais oui, et c'est vrai que ça fait un peu référence au texte de Tamara, parce qu'en fait, on a chacun un peu réinterprété cette idée de virtuel et réel. Et donc, c'est sûr qu'il y a les idées de nouvelles technologies. Moi, je parle aussi de déplacement dans l'espace. Et puis Tamara, toi, ouais, vas-y.
Tamara,
parce que
ouais.
Tu es là, on t'écoute.
Je vais lui donner le micro.
Voilà, concernant un parallélisme entre le virtuel et le réel, je peux faire une petite réflexion à ce sujet.
Oui, mais c'est juste, Tamara, c'est juste parler, peut-être un peu plus tard, tu en parleras, mais au niveau de ton texte, il parle de quoi, finalement?
Oui, effectivement, mon texte, il parle du virtuel, sur du monde réel, joué sur une scène de théâtre, ce qui s'appelle le spectacle, normalement le spectacle. Et il s'agit de la transmission de la magie des gitans, d'une traite de culture, un mélange des cultures, traditions et magie. Ça, c'est le point principal. C'est joué par des artistes de rue qui, eux, ils jouent le virtuel de ce que la vie réelle reflète sur leur vie à eux, reflétée sur la pièce de théâtre. Là, c'est une combinaison de traditions, couleurs, musique, la danse, et c'est un peu, comment on appelle ça, une sorte de parodie tragico-comico de la vie réelle, avec quelques effets de la magie. La magie, c'est virtuel, effectivement, comme trait des caractères de ces gens.
Mm-hmm. Oui, c'est ça, une mise en scène de la réalité.
Oui, et moi, jouer sur scène.
Oui, moi, par rapport à ce que vous disiez, en particulier par rapport à la question de l'image, le fait que le virtuel, il est très, très ancien. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'à la limite, on pourrait dire qu'il a commencé avec la parole. Dire la parole, c'est une façon de se représenter le réel, mais voilà, de s'en éloigner quand même, quoi.
C'est illusoire.
Mais la difficulté, je pense, aujourd'hui, c'est que comme ça se joue aux images, avec les images, et qu'on associe toujours image à vérité. Donc, on pense toujours qu'une image, donc une photo, par exemple, c'est du vrai. Et ce qui est évidemment, on peut en discuter puisque tout dépend du point de vue. Enfin, voilà, il y a pas mal de littérature par rapport à cette question-là. Mais en attendant, par exemple, dans les par rapport à une information, voilà, on voit une image, on se dit c'est du vrai. Or, cette vérité, elle est pas toujours vraie. Et même elle est scénarisée par des moyens qui jouent sur aussi l'aspect immatériel, en fait, des moyens qui sont mis à notre disposition. Et donc, il y a toute une manipulation qui peut avoir lieu et qui crée une... Enfin, ça, c'est mon interprétation, hein. Une sorte de virtualité qu'on pense... Enfin, si on ne réfléchit pas un peu plus, si on n'est pas critique, on pense c'est vrai. Et ça peut totalement changer notre perception des choses et nous orienter vers des décisions qui sont peut-être pas les meilleures pour nous en tant qu'êtres humains. Mm-hmm. Donc ça, c'est par rapport aux images. Après, il y a la question des jeux vidéo qui jouent aussi sur des images. Mais là, c'est plus un rapport qu'on a avec la technologie et comment cette technologie... Moi, j'avais lu il y a très, très longtemps un livre qui parlait de l'homme bio... pas bionique. Il y a eu ça aussi. Mais en fait, il disait, voilà, que par exemple, une montre un jour sera partie intégrante de notre corps. Moi, ça m'est resté gravé.
Ah, oui.
Parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'en est pas là.
Ah, oui.
Mais on pense à ces petits chips-là qu'on avale et que du coup, on peut on aura un rapport par rapport aux objets, aux portes qu'on ouvre, aux codes, etc., totalement différent. Et ça sera partie de notre corps. Et les fameuses lunettes là où on voit en 3D, etc., c'est aussi une façon d'intégrer notre corps, en fait, dans de la technologie et vice-versa. Et ça nous amène à la question des robots aussi. Hein. Donc, voilà, je pense qu'il y a tout un cheminement qui s'est fait... Où il y a pas mal de chemins différents, mais qui convergent finalement. Moi, je trouve vers cette question d'immatérialité qui moi me pose problème parce que qui la gère en fait ? Comment on se positionne par rapport à ça ? Et je trouve que ça pose question par rapport à nous en tant qu'êtres humains de chair et d'os et qui et voilà. Et nous avons besoin de toucher pour vivre, quoi. Donc voilà. Je sais pas si c'était clair.
Si, c'était clair. Et puis, bah, de toute manière, on est là pour échanger aussi. Donc, je pense pas qu'on doive donner vraiment, hein, tu vois, une solution finale. Mais en tout cas, de ce que vous avez dit, toutes les deux.
Certainement pas de solution finale.
Non, pas de solution. Mon Dieu. Non, pas de solution finale. Mais en tout cas, par rapport à ce que vous avez dit, il paraîtrait que la schizophrénie, s'est révélée quand les hommes des cavernes ont commencé à dessiner. Donc, il paraîtrait, hein. Donc, c'est à creuser. J'ai pas plus d'infos que ça, mais voilà, elle est venue. Ça me faisait aussi penser au virtuel et au réel, à la spéculation financière. Donc, on avance déjà des trucs qui n'existent pas, en fait. On vend déjà en avance, alors qu'il n'y a pas vraiment l'argent concret, en tout cas, mais c'est très flou.
Disons que l'argent ne correspond plus à rien de concret, de réel. C'est devenu quelque chose de virtuel.
Ce film, je sais plus comment il s'appelle, de cet homme qui a fait de la prison d'ailleurs, qui s'est pris au jeu comme ça, spéculé.
Oui, oui, oui.
Je sais plus comment s'appelle ce film.
C'est un français. Hein.
Oui, c'est un français qui.
C'est un français, voilà.
Il a perdu. Je sais pas combien de millions à la société.
Voilà, et c'était de la spéculation. C'était comme une addiction, quoi, un jeu de casino, quoi, l'adrénaline, enfin tout ça, quoi. J'ai pensé aussi, quand je vous écoutais, à l'homme bionique. Alors, ça me faisait penser déjà dans les années... Enfin, moi, quand j'étais enfant, il y avait des séries télévisées qui passaient. C'était Super Jamie. C'est la première femme bionique, et puis l'homme qui valait 3 milliards, je crois. Il y avait déjà ça. Tu vois, super Jamie, elle pouvait sauter par-dessus des murs. Enfin, c'était super.
Goldorak aussi.
Ça, c'était, ouais, c'était un dessin animé, ça. Plutôt, ouais.
Ah oui, ok.
Goldorak. Oui, ouais. Bon, j'aimais bien Goldorak. Merci. Donc, tu vois, quelque part. Donc voilà, ça me faisait penser à tout ça et j'avais envie d'échanger. Ceci avec vous, et là, donc ce qui nous amène au thème, attendez, un thème du... Non, je croyais que tu me disais quelque chose de... Voilà.
Les machines robots, ordinateurs font partie de notre réalité, malgré tout, doit-on en avoir peur?
Ça, c'était une de nos questions.
Et oui, et j'ai trouvé ça génial quand j'ai quand j'ai ouvert le mail, parce que ça m'a amusée, parce que cet été, j'ai lu pas mal, Bon, j'ai lu quelques articles, en fait, sur les robots, et notamment, j'ai suivi un petit peu ce que faisait Elon Musk. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. J'ai un ami qui l'appelle le DJ de la science.
Tu peux un peu expliquer, mais Elon Musk, aux auditeurs et auditrices.
Oui, Elon Musk fait à peu près tout. Donc, il veut organiser un voyage sur Mars pour bientôt. Il est en train de faire un Wonder Loop, en Californie, pour qu'on voyage très, très vite. C'est un fanatique de comics américain. Je ne sais pas, il doit avoir 45 ans maintenant, je pense. Mais bref, enfin, voilà, quoi. C'est un petit peu le comics américain.
C'est un entrepreneur.
C'est un entrepreneur, oui. C'est un entrepreneur aussi, mais alors là, on est parti sur Mars dans des trucs hyper futuristes. Et alors, il avait critiqué un petit peu Mark Zuckerberg en disant qu'en fait, Mark Zuckerberg ne maîtrisait pas du tout l'intelligence artificielle. Donc lui, il est très, très intéressé. Elon Musk est très intéressé par l'intelligence artificielle. Et alors, si on doit en avoir peur, je me disais intuitivement, je dirais oui. Et en même temps, je me disais avant que les robots existent, parfois, moi, il y a des êtres humains qui me font peur aussi, quoi. Ce sont pas des robots, quoi. Donc je me dis bon, les humains peuvent faire peur aussi. Je pense que oui, ça peut être un souci parce que, en fait, ça dépend comment on voit les choses. Ou bien ça fait partie de l'évolution de notre civilisation d'aller vers ça. Je ne sais pas. Et puis, bon, bah, c'est comme ça que ça arrive. Ou bien on se dit, non, en fait, c'est important encore de nourrir des sentiments divers ou même de solidarité envers nos proches, envers les gens qui nous entourent. Donc ça, je ne sais pas.
Moi, je crois que ce à quoi il faut être vraiment vigilant, c'est de voir qu'effectivement, ce monde... qui est le nôtre et qui a envahi des nouvelles technologies, des machines, des robots déjà maintenant, etc. Oui. Mais ne nous fasse pas perdre notre humanité. Non. C'est ça, en fait, l'enjeu. Et donc, on ne doit pas avoir peur, je crois, d'une machine en tant que telle, même si c'est vrai qu'on a des machines qui pensent, apparemment, déjà maintenant. Oui. Mais je dirais, on n'a pas besoin d'avoir peur d'une machine ou d'un monde de machines, mais l'enjeu, c'est de ne pas, finalement, je crois que on est là-dedans, nous imposer un modèle de vie à l'image de machines. Et donc d'être performant, de nous demander une efficacité égale à celle d'une machine. En perdant toute cette notion, oui, tu parlais de sentiments, mais de bienveillance, oui, d'indulgence, l'intelligence du cœur et des choses comme ça. Enfin, donc voilà, il est vraiment très important que au niveau de ceux qui nous dirigent, parce que c'est aussi ça, ces modèles-là arrêtent d'imprégner finalement les modèles de fonctionnement, de management, etc., de coaching, enfin tout ça, on est un peu pris comme des machines. Mm-hmm. Et donc moi je dirais que c'est ça le souci de ce virtuel-là empreint de machine par rapport au virtuel qui nous a peut-être amené à être de temps en temps schizophrène, quoi. Mais...
Oui, en même temps je dirais que ceux qui nous gouvernent sont aussi des humains, tu vois, quoi.
Oui.
Et donc c'est un peu... C'est un peu ça. Enfin, je voulais juste aussi, pas terminer, mais dire quand on pense aux machines, moi j'avais en tête le film L'Odyssée de l'espace de Kubrick, où cette machine devient complètement parano, en fait. Elle lit sur les lèvres des humains, et puis elle prend le contrôle du vaisseau spatial, et elle devient paranoïaque, elle s'invente toute une histoire, comme un humain pourrait faire d'ailleurs, en fait. Et récemment, je suis allée voir le dernier Alien de Ridley Scott, donc qui parle d'androïdes, enfin ce sont des humanoïdes, pardon, pas androïdes, humanoïdes. Et alors l'humanoïde finit par avoir, enfin, a des questions hyper existentielles sur sa conception, d'où il vient, il est, enfin, comme un être humain en fait, quoi. Il devient hyper manipulateur et égotique. Il a son sort d'alter ego qui est plus docile, je dirais. C'est un peu un combat entre les deux, comme ça. Donc, je trouve que dans les films et dans la littérature, on a une grande tendance aussi à humaniser les robots et à leur prêter des sentiments. Enfin, c'est ce que j'ai pu constater. Et voilà, donc peut-être, je ne sais pas, voir s'interroger quelles sont les similitudes avec l'être humain, ce qu'un robot pourrait penser un jour. Voilà, je pense au film, mais je vais laisser la parole à Caetana, et après je...
D'accord. Mais moi, je ne sais pas s'il faut avoir peur en soi des robots, des machines et tout ça. En tout cas, ce que je sais, c'est que moi, ça m'énerve quand mon ordinateur pense pour moi et prend des décisions pour moi, ce qui arrive, je pense, à tout le monde. Et ce qui me pousse, évidemment, enfin, ça a l'air anecdotique, mais en fait, ça l'est moins dans la mesure où c'est le résultat de prise de décision de personnes, en fait, qui contrôlent tout ça. Et moi, c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui. Donc là, à l'instant, ce qui m'inquiète, c'est par où passe tout ça? Quels sont les... Parce que ce n'est pas un État, donc ce n'est pas la chose publique, c'est vraiment des privés, donc des sociétés privées comme Google et toutes ces marques, ces multinationales d'ailleurs, qui sont absolument à la pointe de la technologie. Ce que moi, je trouve fabuleux. Moi, je ne suis absolument pas du tout une passéiste. Moi, je trouve fascinant la technologie. Ce qui, moi, me préoccupe, c'est qui contrôle, en fait... ce que ça signifie pour nous, êtres humains. Donc, moi, quand j'entends ces histoires d'algorithmes où je comprends vaguement comment ça fonctionne, qui génèrent toute une série d'informations sur les personnes, ou simplement les photos qu'on poste sur Facebook ou par email, et on les efface et on ne sait pas où elles vont, parce qu'elles ne disparaissent pas, elles restent quelque part. Moi, je trouve quand même que c'est terrible, quoi, parce que ça veut dire qu'il y a toute une histoire de chacun, de chaque individu ici, dans les milliards que nous sommes sur Terre, qui va être contenu quelque part et on pourra même pas avoir accès, on ne sait même pas ce qu'on en fera. Donc il y a toutes ces dimensions aussi qui pour moi est assez problématique et que je pense qu'il faut il faut être conscient par rapport à ça. Après, est-ce que les robots vont avoir des sentiments? Je sais pas, peut-être que oui, et peut-être que ça générera une nouvelle génération de choses vivantes, j'en sais rien, mais bon, moi je serais morte. Hein.
c'est pas sûr, hein, ça va tellement vite maintenant, je me dis tous les jours, je me dis peut-être un alien qui va débarquer, ça va être normal, j'avais raté un épisode à la télé, je sais pas.
Mais, tout est possible.
Voilà. Il y a le film Her aussi, enfin je le dis en français, je le dis pas très bien, avec Joaquin Phoenix. Ah. Où en fait c'est un homme assez isolé, il écrit des lettres pour des gens sur commande, et puis il vient de rompre avec son ami, et il crée il achète un programme et il a une espèce de voix en fait, enfin d'une femme en fait qui lui parle, et petit à petit il commence à tomber amoureux, quoi. Et parce qu'elle répond comme il faut, elle a de l'humour, enfin, la femme parfaite. Et puis à la fin, finalement, il se dit, mais en fait, tu me parles à moi, mais tu parles comme ça à d'autres gens aussi. Et elle dit, bah oui, en fait, oui. Et là, il est... Voilà. Voilà.
Alors, Jennifer, tu as choisi pour nous un morceau qui alimente votre réflexion. De quoi s'agit-il?
Oui, alors j'ai choisi le morceau, justement, ça tombe bien, puisque je venais parler de ce film, Her. J'ai choisi le morceau Deeper Understanding de Kate Bush, qui a été initialement composé en 1989. Et un peu plus tard, quelques années plus tard, elle a fait un album qui s'appelle Director's Cut, où elle a repris des vieux albums. Mais en tout cas, Kate Bush en parlait déjà de ça en 1989. Et donc c'est un homme qui se retrouve devant une console vocale, enfin devant un ordinateur, une console vocale. Et dans la chanson, elle explique que voilà, comme le monde devient plus froid, c'est un peu ce qu'il comprend, quoi. C'est cette boîte vocale qui lui parle, qui sait quand il est fatigué, qui sait ce dont il a besoin. Je vous invite aussi à regarder le clip si vous avez l'occasion. Ça se termine pas très bien, en fait, mais voilà. Et puis c'est super parce que c'est Kate Bush et je l'adore. Je trouve que c'est vraiment une très grande artiste, visionnaire, très créative. Et donc ça tombe bien, voilà. Donc Deeper Understanding.
Super. Bon, alors maintenant.
Thank you.
Pour toi, Tamara, quel est le rôle du virtuel dans la vie réelle?
Mais voilà, j'ai découvert en fait qu'on peut rester connecté avec la réalité. On peut aussi rester en connexion avec le virtuel. Oui. Qu'est-ce que ce soit dans l'expérience visionnaire ou chez le chamanisme, la pratique de jouer en ligne, c'est aussi une ressemblance d'enjeu d'acteur. La frontière entre le monde réel et imaginaire peut apparaître un peu floue. À quoi ressemble ce jeu, en fait, auquel nous participons? Et quelle est la durée de cette participation des acteurs qui, dans la représentation? Le virtuel reste-t-il une échappatoire au réel? Ou le virtuel et réel sont des éléments simplement complémentaires, donc un sur l'autre. Par exemple, la technologie de l'imaginaire, la réalité virtuelle, met en elle-même en œuvre imaginaire puissante. Et les espoirs démesurés, par exemple, dans Les Neuromagiciens, écrite par William Gibson, la figure du magicien, en demeure bâtisseur de monde, s'inscrit au filigrane derrière l'écran de trois dimensions. Je peux encore ajouter que le virtuel, il reflète trois images assez importantes, consiste dans le pouvoir magique, immortalité ou un univers artificiel. Parlons de même écrivain William Gibson, qui est un auteur d'origine australienne. Il visualise la réalité virtuelle, qu'elle est fort appréciée par le lecteur dans son roman La Cité des Permutants, dans l'édition Amazon, publiée à l'édition Amazon. Il ressort en évidence la technologie quant à la nature de ce ressort, en évidence la technologie de la réalité, de l'identité et l'avenir de monde simulé. Bien sûr, il ne faut pas oublier aussi le roman Les Misérables ou La Case de Oncle Tom. On suscitait des révolutions sociales, mais avant le neuromagicien, l'œuvre neuromagicien, aucun texte de ce genre n'avait démarré ces révolutions technologiques.
Ouais. Oui, ça fait un peu référence à la puissance finalement du virtuel sur le réel aussi. Hein.
Ouais. Quelques petits exemples, il y a eu pas mal d'autres écrivains, mais bon, parmi ceux-ci, c'est éloquent.
Mm-hmm. Oui,
c'est
tout à fait.
Un exemple éloquent. Ouais.
Voilà, moi j'avais encore une réflexion qui me venait, mais plus en lien avec la question des images. Parce que tu disais tout à l'heure, Cayetana, qu'en fait, voilà, on est tellement dans une société d'images finalement qu'on a besoin de voir pour croire et que aussi on n'a pas forcément cet esprit critique qui fait que on va remettre en question ce qu'on voit. Il y a une sorte de hiérarchisation des images. Mais bon, comme tu le disais tout de suite, Tamara, il y a aussi les textes hein, qui sont aussi des formes
des images,
de virtualité. Et donc,
On peut la dénaturer selon sa volonté.
Oui,
mettre en œuvre.
Et alors, oui, c'est ça. Et donc, en fait, ce que je me disais, c'est que finalement, quand on n'a pas une image d'un fait qui s'est passé à l'heure actuelle, on va plus facilement aussi le remettre en question. Donc, on va remettre en question peut-être la vérité
à partir
du moment où on n'en a pas d'image.
C'est
et donc, c'est là aussi qu'on sent combien finalement le virtuel imprègne notre manière de fonctionner, quoi. Et c'est comme ça, enfin, c'est...
Il émerge de la réalité en virtuel et c'est un échange vice-versa.
Oui, c'est
le
ça, il y a une
virtuel, dans la réalité dans le virtuel, c'est une cohésion en fait très proches sont des vrais amis. Ce sont des vrais amis parce qu'on doit franchement coopérer avec entre ces deux éléments.
En fait, ben c'est nous les êtres humains en fait qui devons coopérer. Peut-être que c'est ça qui fait effectivement notre particularité, c'est que c'est à nous d'allier les deux puisqu'on a créé finalement le virtuel.
Mais oui, c'est ça. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est une façon, c'est comme on peut l'utiliser, quoi, les réseaux sociaux, c'est on choisit ce qu'on a envie de partager avec ses amis ou bien d'une façon publique. Les réseaux sociaux pour moi, en tout cas, ont été assez utiles à un moment donné où j'étais pas en Europe et où j'avais des amis ici. Et donc, ça crée quand même une proximité. Donc, j'étais quand même au courant où, voilà, quand quelqu'un est dans un autre pays, je suis, il y a le côté instantané qui est pas mal et du lien qui peut être préservé aussi. Donc c'est vrai, je pense que je suis assez d'accord avec toi. Ce que tu dis, Isabelle, c'est de faire son choix de façon dont on l'utilise, de rester vigilant. Parce que oui, c'est ça. Voilà.
Oui, c'est ça. Et alors, mais ce à quoi je voulais aussi arriver, c'est que, par exemple, là, il y a un négationniste qui a été condamné à, en fait, aller pendant les 5 ans à venir, une fois par an, à Auschwitz. Et donc là, donc c'est vraiment l'idée d'aller s'imprégner en lien avec ce que tu disais, Cayetana, l'importance des sens, de vivre les choses aussi, et d'aller s'imprégner de cette réalité-là là-bas. Peut-être que ça va le faire bouger. Et alors il y avait ce matin dans une autre émission radio, d'une autre radio, sur la première, eh bien, il y avait justement une personne qui est responsable d'une association et qui organise des voyages à Auschwitz. Et elle était professeure d'histoire, avant ça. Et elle disait, c'est incroyable l'effet que ça a d'aller à Auschwitz, d'aller sur place. En termes de sensibilisation, ça n'a rien à voir avec les mots. Et donc, de vivre les choses, effectivement, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier, en fait. On doit rester quand même ancré, je crois, dans le sol et continuer à vivre des moments très beaux entre nous, c'est vrai. Et ces moments que tu vis avec peut-être par Skype avec des amis de l'autre côté de l'Atlantique ou je ne sais pas où étais, ça fait référence à des moments de vécu que tu as où tu as rencontré l'autre aussi. Maintenant c'est vrai qu'on peut aussi peut-être vivre des choses uniquement de manière virtuelle comme tu le faisais. Faisait référence à travers heure finalement c'est avec une voix qu'ils tombent en amour.
Mais quelque part aussi c'est le virtuel peut donner des émotions qui elles sont réelles. Ça c'était dans un texte que j'ai lu et que j'ai trouvé intéressant, Cayetana, et qui était juste parce que dans ce film par exemple, c'est une voix qui est virtuelle, mais les sensations amoureuses qu'éprouve cet homme, elles sont réelles au fond. Ou alors on s'est
tout
dit...
à fait.
Oui, vas-y, Cayetana.
Oui, et puis l'expérience des personnes qui jouent à des jeux, c'est une expérience réelle. Il y a toute une émotion physique et mentale qui fait que c'est attirant. C'est pour ça que les gens aiment bien en fait, parce qu'on est dans des émotions. Après, voilà, qu'est-ce qui crée l'émotion ? Ça, c'est peut-être l'autre question à laquelle il faudrait se pencher.
Donc, il existe quand même du réel dans le virtuel.
Les émotions sont réelles et du coup, les émotions sont réelles c'est comme le web marketing, par exemple. Alors ça a été un truc aussi cet été. Je me dis, il y a des entreprises, mais c'est hyper agressif, quoi. C'est hyper violent. C'est 3 fois par jour où tu te prends une pub, en fait, comme ça, tu vois. Et finalement, il y a des trucs qui finissent par fonctionner comme ça, quoi. C'est parce que c'est à répétition, donc ça rentre un peu dans ton inconscient ou je ne sais pas. Ça te paraît hyper familier parce que tu as l'impression de le voir de voir ça tout le temps. Donc c'est je connais en fait. C'est du web
lavage. Lavage de cerveau sans s'en rendre compte.
Oui, quoi. Du forcing, du lavage de cerveau pour avoir plus de clients, plus d'argent, enfin ou voilà, et pour les bonnes ou les mauvaises bonnes ou mauvaises raisons de ces personnes. Mais il y a un truc qui est hyper acharné en tout cas, c'est ça.
Juste une parenthèse, je voudrais faire. C'est ce qui m'étonne fort, ce sont les présentations publicitaires. C'est une forte sentiment de vivre vraiment le virtuel avant de, le réel. On écoute, on voit une pub, une publicité, et on est déjà touché, on a des sentiments éclatants par rapport à ça. On se transpose, on n'est plus le même. Jusqu'au fait, quand on cogne le réel, enfin, quand on touche le réel, qu'on peut avoir des retours, des rejets négatifs ou bien positifs par rapport à l'image, je veux dire. Mm-hmm. Donc, c'est assez une transmission très, très puissante. Et ça détend la nature un peu la fantaisie du cerveau, comment on dit, l'image, elle est parfois déformée, parfois... peut-être réel, mais c'est un grand point d'interrogation. Donc on vit tout ça, on vit. Hein. On vit vraiment quelque chose qu'on n'est pas certain que c'est du réel. Et bon, on peut avoir des résultats. Surprise. Voilà.
Oui, enfin, surtout pour... Je termine vite fait sur la publicité. Ouais, pour la publicité. Enfin, en ce qui concerne la pub, c'est jouer sur le désir, hein, en fait, des gens. Enfin, c'est
tout de même... Ça intervient dans la vie de tous les jours.
Ah ben oui, voilà. C'est ça, oui, tout
ça
à fait.
On va montrer,
une femme en décolleté, ça fonctionne tout le temps.
Ah oui, pas mal.
Bon, tournons-nous maintenant vers Script Alinéa, le réseau des collectifs d'écrit, et vers sa coordinatrice Isabelle, car si tu es membre du CAP, tu es aussi coordinatrice de l'association qui relie entre tous les collectifs d'écrit.
Oui, donc... Ceci n'a rien à voir avec cela, donc je n'ai pas de grand décolleté, ne commencez pas à fantasmer.
On est des femmes, ça va.
Voilà, alors c'est vrai que Script Alinéa et ce réseau de collectifs d'écrit, et donc voilà, j'essaye effectivement de mettre en lien toutes ces réalités de personnes qui se rassemblent, alors en réel, pour développer des parcours d'écriture comme nous, on le fait dans le CAP. Ouais.
As-tu des nouvelles à annoncer ?
Oui, alors j'ai des nouvelles bien réelles de rencontres physiques. Et vous allez continuer à ricaner, là, les filles en face de moi, parce que c'est la présentation publique de Femmes Sauvages.
Bien voilà, la femme sauvage a-t-elle un décolleté ?
Voilà, et bien ça, pour le savoir, vous rendez le 13 octobre à 19h30 à la bibliothèque d'Ixelles. Donc c'est à Bruxelles, alors c'est 19 rue Mercelis, et ce sera donc... Le collectif Les Sept Mercelaires qui présentera donc sa compilation Femmes Sauvages dans le cadre de la Fureur de Lire. Donc voilà, ça, alors pour savoir, pour info, il y aura quelque chose d'un petit plus, c'est-à-dire on se balade là dans la bibliothèque, c'est l'occasion d'un peu découvrir tous les endroits, et en fait il y a des photos, une exposition en plus de photos d'Edouard Hubin qui est à voir. Et que vous découvrirez à cette occasion-là. C'est gratuit, mais voilà, signalez-nous par un petit mail que vous comptez venir, comme ça on peut organiser ça au mieux.
Oui. Un collectif d'écrit dans une bibliothèque, ça a tout un sens.
Ça a tout son sens, tout à fait.
Ça a tout son sens.
Oui. C'est vrai, parce que bon, voilà, c'est un lieu de livres, un lieu d'humains aussi, et puis quoi de mieux que de rassembler des personnes qui aiment les livres, qui aiment l'écriture, pour voilà, les encourager peut-être à s'y mettre elles également. Et donc, par rapport à ça, il y a une formation qui est donnée pour les bibliothèques et les centres culturels. Et qui s'organise les 19, 20 octobre et le 7 novembre. Donc c'est une formation de 3 jours qui est organisée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc voilà, vous allez trouver programme et bulletin d'inscription sur le site de Script Alinéa. Mais sinon, vous pouvez aussi vous inscrire en appelant Sonia De Vrindt au 04 232 40 14. Donc le 04 232 40 14 pour vous inscrire. Alors ça, c'est effectivement uniquement aux, ça s'adresse uniquement aux bibliothécaires et aux animateurs de centres culturels. Mais pour les autres personnes qui voudraient lancer un collectif d'écrit et qui ne sont pas, qui n'évoluent pas dans ces réseaux-là, eh bien, il y a une autre formation qui est ouverte à toute personne qui a envie d'animer un collectif d'écrit, et elle aura lieu les 18 et 19 décembre à Bruxelles. Les inscriptions sont ouvertes.
On s'arrête là pour le réseau?
Oui, enfin, disons que de toute façon, toutes les informations sont reprises sur le site des collectifs d'écrit, collectifdécrit.org, collectif d'écrit avec des S et sans accent et attaché. Tout attaché. Voilà.
Tout attaché, oui. Il nous reste à prendre congé de vous, chers auditeurs et auditrices, chers CAP, et de vous donner à tous et à toutes un rendez-vous pour la prochaine émission des Livres pour dire. 19 octobre de 18 à 19h, le collectif de la diversité à la créativité présentera Les Écrivantes, un documentaire radiophonique réalisé par Pascal Stevens.
Oui, et alors juste pour info, la dernière et après je me t'ai promis, c'est que le 5 octobre, ben, ça va être la toute première de la diffusion de ce documentaire radiophonique. Ça aura lieu sur Radio Panique, encore une autre radio associative, cette fois, celle-ci, 105.4 au niveau des ondes, et vous, sinon vous allez sur radiopanique.org, panique avec un K, et c'est à 11h. Écoutez-nous à 11h.
Zora Temsemani au micro. Je vous dis au revoir à tous et à toutes et à bientôt.
Voilà. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Merci.
Merci. Oui.